Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger.
Chers auditeurs, bonjour. Pour ce nouveau Cinémag, nous vous proposons, après un peu plus d'une semaine de festival, de revenir précisément sur les événements qui ont jalonné cette première semaine. Et nous avons deux invités de marque que nous allons vous présenter tout de suite. Thierry, nous t'écoutons.
Voilà, c'est un numéro exceptionnel de Cinémag, puisque pour la première fois, les élèves de l'option du lycée Rotrou interviennent dans votre magazine préféré. Donc nous avons parmi nous Léa. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et Arthur.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous d'abord nous dire dans quelle classe vous êtes respectivement ?
Bon, alors moi, je suis en terminale L, spécialité cinéma avec l'option facultative.
Et moi, je suis en première littéraire, option de spécialité de cinéma.
Alors, on va revenir ensemble sur cette première semaine et un peu plus de programmation et d'événements. Donc, s'il y avait un événement qui vous venait à l'esprit pour cette première semaine de festival, qu'est-ce que vous citeriez ?
Moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est la soirée pré-ouverture à la Maison du Danemark aux Champs-Élysées à Paris, où on a pu rencontrer plein de personnes de la Maison du Danemark qui nous ont présenté ce qu'ils faisaient, et on a vu un court-métrage, et on a pu parler à plein de gens super intéressants, des journalistes, et vraiment, ça, c'était super sympa. Surtout que ça nous permettait, nous, des élèves de l'option, de rencontrer des personnes professionnelles directement.
Et vous, Léa, est-ce qu'il y a quelque chose, un film, une projection que vous avez particulièrement apprécié ?
Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est le film Mélancolia que nous avons vu lundi au Ciné-Centre. Donc Mélancolia, c'est un film de Lars von Trier qui parle de la fin du monde. Et ce qui m'a marqué justement, c'est qu'on montre la fin du monde avec un côté émotionnel. On se centre seulement sur quelques personnages et toute leur peur face à l'arrivée d'une catastrophe.
Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du casting du film, qui est quand même assez intéressant.
Bah du coup, oui, moi déjà, dès que j'ai entendu parler du film Mélancolia, je me suis rendu compte que la plupart des acteurs dans le trailer, même, je les reconnaissais directement, que ce soit Kirsten Dunst ou Charlotte Gainsbourg, et même Alexander Skarsgård, que je connaissais depuis longtemps dans son rôle dans la série True Blood. Et du coup, lorsque je les ai tous vus dans un seul film, ça m'a vraiment fait plaisir. Et vraiment, ce qui m'a peut-être fait verser une petite larme, c'était je voyais John Hurt, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Et ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de revoir des acteurs vraiment qui ont participé au fondement de certains films qui sont considérés comme classiques maintenant.
Alors, beaucoup de gens trouvent que le cinéma de Lars von Trier, c'est un cinéma déroutant. Est-ce que vous avez été dérouté aussi ?
En fait, ce qu'on trouvait intéressant avec Léa, c'était que justement, Mélancolia, eh ben, y a toute une partie du film qui paraît hors de la thématique de Lars von Trier. Toute la partie qui se concentre du début, je pense que c'est les 25 premières minutes, où on est concentré sur le mariage, eh ben, c'est vraiment, ça ressemble à une comédie qu'on pourrait avoir dans un film américain classique, et qui vraiment paraît normal, et c'est petit à petit que la dépression arrive. Par exemple, lors du mariage, il y a vraiment des blagues, par exemple John Hurt qui cache des cuillères et qui demande au serveur d'en reprendre. Ça vraiment, c'était une blague que je m'attendais vraiment pas à voir dans le cinéma de Lars von Trier, surtout qu'on a déjà vu des films ensemble de ce réalisateur qui étaient beaucoup plus dépressifs et plutôt déprimants.
Et c'est ça, là, la thématique de la dépression vient beaucoup plus tard, et petit à petit, avec les jours qui avancent, on évolue avec les personnages et on commence à avoir peur comme eux, et on voit toute leur évolution émotionnelle.
D'ailleurs, cela marche surtout aux deux actrices principales, Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg. D'ailleurs, le film est axé en deux parties, l'une sur Kirsten et l'autre sur Charlotte.
Deux sœurs.
Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment montré. D'ailleurs, je crois bien avoir lu une interview où le réalisateur disait que l'actrice principale, donc Kirsten, a gagné le prix d'interprétation féminine à Cannes justement parce qu'elle avait déjà vécu une dépression dans sa vie et qui s'était grandement inspirée de son propre vécu pour la faire jouer ses propres scènes.
Alors, dans l'après-midi qui précédait, vous aviez rencontré dans l'auditorium du lycée Rotrou la productrice du film, Marianne Slott. Est-ce que cette rencontre vous a marqué ?
Alors, oui, moi personnellement, elle m'a plutôt marqué puisque nous avons pu apprendre certains aspects du métier de producteur et échanger avec Marianne Slot sur les films de Lars von Trier et la manière de travailler avec lui.
Est-ce que le métier de producteur, du coup, qui a été, dont on a un petit peu affiné les contours, c'est quelque chose qui vous tente plus tard ou vous êtes plutôt sur d'autres voies concernant le cinéma en particulier ?
Eh ben, moi, personnellement, même si le métier de producteur m'intéresse, j'ai plutôt une vocation à tourner vers la réalisation. Parce que vraiment, ça me tient à cœur de créer de A à Z une œuvre. Et les producteurs, même si c'est un bon moyen de faire un film, c'est pas l'âme, à mon avis.
Vous préféreriez être Lars von Trier que Marianne Slot, en fait.
C'est ça.
Oh, peut-être au moins torturé.
Ouais,
peut-être.
Y a-t-il d'autres films de cette première semaine qui vous ont marqué ? Je vous ai entendu, entre vous, avant l'émission, parler de Revenge.
Comparé aux autres films qu'on avait vus avant, comme Les Pommes d'Adam ou... après, moi, j'ai vu Épidémique. C'est vraiment, comme Mélancolia, un cinéma qui a l'air un peu plus commun, classique, qu'on a plus l'habitude de voir avec des... par exemple, il n'y a pas la présence du dogme 95 qu'on a étudié. Et ça m'avait vraiment marqué, le fait que Suzanne Bière, la réalisatrice, elle fait vraiment un film qui paraît plus accessible.
Alors, c'est vrai que ce film peut paraître plus simple et plus commun, mais avec l'avancée du film, on se rend compte que non, justement, on brise les codes et on lui parle d'une histoire et de personnages avec des réactions qu'on n'attend pas forcément.
Par exemple, un des personnages principaux, qui est un médecin humanitaire, il fait un choix de sacrifier un chef de gang africain parce que justement, il en a marre de ce rapport humain qui est horrible là où il travaille. On a vraiment un aspect très détaillé de ce que c'est de vivre des souffrances chaque jour, de devoir s'occuper de personnes qui souffrent avec peu de matériel et peu de moyens. Et vraiment, c'est pour moi très très intéressant ce point de vue dans le film. Surtout que ça contraste parfaitement les côtés en Afrique avec les côtés qu'on a après au Danemark et qui sont plus des aspects familiaux et personnels que tout le monde pourrait vivre en fait.
Un autre film qui a été vu par les élèves de l'option cinéma du lycée Rotrou, c'est Dark Horse, d'un réalisateur qui n'est pas danois mais islandais, qui est Dagur Kari. Alors ce film, visiblement, vous a un petit peu partagé.
Oui, moi j'ai... En fait, plus le film il avançait, plus je l'aimais. Même si la façon dont l'histoire était racontée était très singulière, j'aimais beaucoup. Et en fait, vraiment, quand on rentre dans le délire du film, on est pris dedans. Et on commence à vraiment aimer les personnages. Moi, personnellement, je me souviens plus comment il s'appelait, le personnage un peu obèse, il me faisait hurler de rire à des moments.
Pépé,
ouais, c'est ça. Pépé, il y avait des moments où son obsession à être arbitre de foot, qui allait dans la vie commune, et après qu'il était arbitre alors que son pote, il voulait juste jouer au foot, c'était vraiment super drôle pour moi. Je trouvais qu'il y avait un aspect comique plutôt bien incorporé au film, alors que dans certaines comédies, on a l'habitude que des fois, trop c'est trop, on en a trop de blagues sur trop de blagues, du coup on est un peu saoulé.
Puis il y a une chose qui me plaît justement par rapport au personnage, c'est qu'on sent l'amour du réalisateur pour ses personnages et pour ses acteurs. Je trouve qu'il y a quand même vraiment une forme de tendresse pour ces gens qui sont
ces bras cassés, un peu à la marge.
Voilà, ils sont tous un peu boiteux, au propre ou au figuré, et en même temps, il n'y a pas de violence à leur égard, il n'y a pas de moquerie à leur égard.
C'est ça, il n'y a pas de jugement, effectivement, il y a une vraie bienveillance. Et un amour, une tendresse, ça c'est assez évident. Ouais.
Voilà. Et c'est ce qui fait que Dagur Kari, je crois, est un réalisateur intéressant. Par ailleurs, aussi, eu égard à des choix techniques et esthétiques qu'il fait. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont frappé.
Déjà, on peut parler du noir et blanc. Le noir et blanc qui est présent dans quasiment tout le film, sauf à un moment. Ça, par exemple, pour moi, c'était une des scènes les plus belles.
Alors pourquoi, on peut le dire, parce que ça, même si les auditeurs veulent revoir le film, ça, je pense que ça ne gâche rien. Pourquoi y a-t-il à un moment le passage à la couleur ? Ça correspond à quoi dans l'histoire du film ?
Mais en fait, c'est un passage qui est très beau. C'est vraiment vers la fin du film où des personnages principaux sont devant un choix très très dur, très personnel, qui vraiment là par contre sort complètement de la comédie qui était très présente dans le film avant. Et il y a ce moment d'attente à un pont, Et le passage en couleur, en fait, on voit bien qu'il signifie le regard amoureux d'un des personnages pour l'autre. Et même s'il dure à peine 5-6 secondes, vraiment, ça me fait un peu comme une claque. C'est pas que ça m'a réveillé, mais ça m'a donné encore plus envie de voir la suite de l'histoire.
Alors, ce film, Christelle, c'est un peu un hommage aux années 60 et à la nouvelle vague, d'une certaine façon ?
Oui, effectivement, il y a aussi un côté... Il y a aussi un côté nouvelle vague dans ce film, avec des personnages comme ça dont on va suivre un petit peu le quotidien. Il y a un petit peu un côté bande de copains qui traînent un peu leur misère, si j'ose dire. Effectivement, on est très dans quelque chose d'assez quotidien, même si à certains moments, les personnages sont confrontés à des choix très intimes et très personnels, comme le disait Arthur.
Et on sait d'ailleurs par ailleurs que le réalisateur n'a pas choisi d'écrire un scénario de façon classique, mais a comme ça ajouté des petites scènes plus ou moins empruntées à la vie quotidienne, plus ou moins déformées. Et effectivement, c'est aussi une façon d'écrire qui n'est pas tout à fait conforme au canon, à ce qu'on apprend dans certaines écoles de cinéma, avec l'événement qui doit arriver à tel moment ou à tel autre. Et je pense que ce film est un film qui respire la liberté. Est-ce que vous pourriez nous dire une petite chose sur le titre du film, justement ?
Je m'en suis rendu compte plus tard dans le film, parce que je connaissais l'expression, mais je la connaissais de très loin. Et en fait, Dark Horse, c'est une expression anglaise qui veut dire un individu inattendu, quelqu'un dont on n'attend pas la présence, dont on n'attend pas qu'il va faire certains choix. Et ça correspond parfaitement avec le personnage principal, Daniel. Au début, on a l'impression que c'est vraiment le bras cassé type qui a aucune responsabilité, qui sait pas ce qu'il va faire de sa vie. De plus en plus, il va devoir faire des choix vraiment importants et personnels, et du coup, il va devenir un Dark Horse et vraiment être quelqu'un dont on ne pensait pas être capable d'être aussi responsable dans certaines situations.
Alors, Regarde ailleurs, c'est aussi des expositions. Et il y a encore pour quelques jours l'exposition Federico Babina à la chapelle de l'Hôtel Dieu, de même que nous ne serions trop conseillés à nos auditeurs de se rendre dans la salle d'exposition de la médiathèque de l'Odyssée, donc, où se déroule pour tout le mois, pour le coup, une exposition Lars von Trier à partir essentiellement de photos des trois films que nous montrons, qui sont évidemment Mélancolia, qui sont épidémiques et qui sont aussi les photos du directeur. Donc ne manquez pas cette exposition. Alors cette exposition, vous ne l'avez pas encore vue. En revanche, vous avez vu l'autre expo qui est l'expo Babina. Alors cette expo, ça vous a intéressé, amusé, interpellé ?
Alors moi, j'ai été beaucoup intéressée par la manière dont Babina... à de retranscrire un univers, d'inventer un lieu pour retranscrire toute la personnalité d'un réalisateur et la manière dont il peut apporter dans chacune de ses œuvres plein de petits détails intéressants sur la filmographie des cinéastes.
Alors c'est une expo où il y a effectivement, comme vous le disiez, des maisons de cinéastes qui sont dessinées, mais aussi quelques objets, ça et là. Alors il y a un petit jeu qui se déroule pour le spectateur qui consiste à essayer de retrouver d'où viennent ces objets dans les filmographies. Est-ce qu'il y a quelques objets que vous avez reconnus et dont vous avez identifié la provenance ?
Très simplement, nous avons la canne pour Charlie Chaplin, mais... C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'objets qui sont interchangeables entre les réalisateurs et entre les films auxquels ils correspondent.
Bah, des fois, moi, par exemple, j'étais complètement perdu au niveau des objets, parce que même si je reconnaissais bien le chapeau de Orange Mécanique de Kubrick, lorsque j'ai vu des gants en cuir à côté de George Lucas, j'ai vraiment cherché pendant 10 minutes et j'ai pas trouvé. Vraiment, il y a des moments où je me posais des questions. Et même pour les dessins, par exemple, il y a celui de Charlie Chaplin où j'ai bien reconnu les temps modernes, et après je ne reconnaissais pas d'autres détails, et du coup je suis parti dans une sorte d'explication qui dirait que le bois utilisé pour la maison ressemblerait à le bois d'un bateau, et donc signifierait l'immigré que souvent Chaplin incarnait dans ses films. Et après il y avait évidemment des maisons qui étaient un petit peu plus simples, comme par exemple la maison de George Lucas, comme je l'ai dit avant, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un de ces androïdes, robots qu'on peut retrouver dans ces Star Wars.
Oui, alors pour nos auditeurs qui n'auront pas eu la chance de voir cette exposition à temps, rendez-vous sur le site de Federico Babina. Vous tapez Federico Babina sur un moteur de recherche et vous trouvez très facilement son site. Et sur son site, eh bien, on trouve des reproductions, évidemment pas de la qualité de celles qui étaient affichées sur les murs de Rouet, mais on trouve les reproductions de ces maisons de cinéastes, et donc on peut s'amuser à entrer dans ces maisons par la pensée et avec nos souvenirs de cinéphiles. Voilà, il est temps de nous quitter. Nous remercions nos élèves d'avoir participé. C'était une première à cette émission. C'était sans doute un peu impressionnant, mais vous en êtes bien tirés. Mais merci à tous deux. Ainsi se termine ce numéro de Cinémag. Nous vous invitons à nous retrouver dès la semaine prochaine. À bientôt.